Nous commençons notre méditation par la parole que Dieu adresse à Abraham au mont Morija. L'ange de l'Éternel, avons-nous lu, appela une seconde fois Abraham des cieux et il lui dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refuser ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. » Cette parole et cette promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'est quelque chose qui est vraiment comme un fil rouge, puisque cette même parole et cette même référence à la promesse faite à Abraham sont rappelées dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. D'abord par l'apôtre Pierre, dans son discours au début du livre des Actes des Apôtres, après la guérison d'un boiteux. Pierre et Jean ont accompli ce miracle, et à la vue de ce miracle, la guérison du boiteux, le peuple s'est rassemblé tout autour de Pierre et Jean pour entendre et voir ce qui venait de se passer. Et à ce moment-là, l'apôtre Pierre dit à tous ceux qui étaient rassemblés devant lui et devant Jean, « Pourquoi vous posez-vous tant de questions au sujet de cet homme qui vient d'être guéri ? C'est par la foi dans le nom de Jésus que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses méfaits. Première référence à cette promesse faite à Abraham. Ensuite, c'est l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, où il démontre que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et voici ce que dit l'apôtre. Puisqu'Abraham eut foi en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, comprenez-le. Ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham le croyant. Si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritier. Et puis, encore une référence, dans la lettre aux Hébreux, nous lisons « Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara « Assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Abraham attendit patiemment et vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Rappel donc de cette promesse dans le Nouveau Testament. Oui, notre appui, c'est ta parole et tes promesses. La parole de Dieu est adressée aux humains. C'est un des traits les plus caractéristiques du Dieu vivant dans la révélation biblique. Il parle aux hommes. Et l'importance de sa parole dans l'Ancien Testament ne fait que préparer le fait central du Nouveau Testament, où cette parole s'incarne en Jésus-Christ. Mais nous restons encore quelques instants dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle directement à des hommes choisis et chargés de transmettre sa parole à son peuple et à tous les êtres humains. C'est la fonction et le rôle des prophètes. La manière dont Dieu s'adresse à eux peut varier. Aux uns, il parle en vision et en songe. Dieu dit à Aaron et Marie, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. » À d'autres, Dieu parle par une inspiration intérieure. Par exemple, lorsqu'il adresse sa vocation à Jérémie, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alors, dit Jérémie, je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Pour ces prophètes et pour tous les prophètes, cette parole de Dieu est le fait premier qui détermine le sens de leur vie. Tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils font est centré sur cet appel et cette parole qu'ils transmettent de la part de Dieu. Et ils en attribuent l'origine à l'action de l'Esprit de Dieu en eux. C'est cela qui fait d'eux les porte-paroles de Dieu. Et puis, Dieu emploie encore d'autres moyens pour se révéler, pour faire entendre sa parole. Dans d'autres cas, la parole emprunte la voie de la sagesse divine qui se communique par la parole et qui s'inscrit dans la parole humaine. La sagesse divine qui s'adresse au cœur des êtres humains, soit qu'elle leur enseigne comment conduire leur vie, soit qu'elle leur révèle les secrets divins de Dieu. Pour ce qui est de la conduite de leur vie, la sagesse dit « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, dit la sagesse, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » C'est la sagesse décrite dans le livre des Proverbes. Et puis, la sagesse de Dieu vient aussi dans le cœur de ceux qui sont envoyés. Et sans développer cet autre exemple, nous avons bien sûr le cas de Daniel, qui est appelé à interpréter la parole qui est apparue sur le mur au festin de Balthazar. Balthazar a vu une main qui écrivait sur le mur et aucun de ses devins n'a pu la lui traduire pour exprimer ce qu'elle voulait lui dire, cette parole de la main qui écrivait sur le mur. Et c'est Daniel, le prophète, qui a interprété ce que Dieu avait voulu dire au roi Balthazar. Comptez, pesez, divisez. Tes jours ont été comptés et Dieu y a mis fin. Pesé, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé. Ainsi, par divers moyens, Dieu parle et Dieu fait retentir sa parole pour les êtres humains. Et cette parole, de toute façon, est une parole inspirée par Dieu. Cette parole des croyants inspirée par Dieu est une parole qui vient de Dieu. Il ne s'agit pas d'une parole d'homme sujette à fluctuation ou à erreur. Prophètes et sages sont en communication directe avec Dieu et ils expriment sa parole, la parole du Dieu vivant. Ainsi, tout Israël dans l'Ancien Testament est invité à reconnaître que Dieu lui parle par la bouche de ses envoyés. Nous avons lu dans le début de la lettre aux Hébreux, Dieu parla à nos pères à bien des reprises et de multiples façons. En parlant, Dieu révèle et Dieu se révèle. Sa parole est tour à tour loi et règle de vie, pour savoir comment se conduire, révélation du sens des choses et des événements, et aussi promesse et annonce de l'avenir. Et en parlant, non seulement Dieu se révèle, mais Dieu agit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et en effet, elle produit toujours ce qu'elle annonce. La parole de Dieu produit toujours ce qu'elle annonce, qu'il s'agisse des événements de l'histoire, des réalités cosmiques ou du terme du dessein de salut. Nous lisons dans Ésaïe 55 « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le croyant trouve dans la parole et les promesses de Dieu son appui et son espérance. Nous pourrions lire beaucoup de textes à ce propos. Juste quelques citations dans le psaume 119 consacré tout entier à la parole. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation, dit le psalmiste, dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Jésus est venu parole de Dieu et accomplissement de la promesse. C'est la dernière partie de notre méditation. Jésus est la parole même de Dieu venu s'incarner parmi les humains. Jésus dit les paroles de Dieu, il dit ce que le Père lui a enseigné. C'est pour cela que ses paroles sont esprit et vie. L'évangile selon Jean montre que chez les auditeurs de Jésus, une division s'opère à cause de ses paroles. D'un côté, il y a ceux qui croient, qui écoutent sa parole et qui la gardent, qui demeurent en elle et en qui elle demeure. Ceux-là ont la vie éternelle et ils ne verront jamais la mort. Ceux-là demeurent dans la parole et la parole demeure en eux. Et je voudrais juste souligner avec force cette double réalité. Demeurer dans la parole demeure en nous. Et puis il y a les autres de l'autre côté. Il y a ceux qui trouvent cette parole trop dure, qui ne peuvent pas l'écouter et qui de ce fait la refusent et rejettent le Christ. Ceux-là, la parole même de Dieu en Jésus les jugera au dernier jour. Nous reprenons encore une fois et prolongeons la citation que nous méditons depuis le début et que nous avons trouvée dans la lettre aux Hébreux. Lorsqu'il fit sa promesse à Abraham, Dieu voulant bien davantage montrer aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, garantit sa promesse par un serment. Ainsi, deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente nous apportent un puissant encouragement à nous qui avons tout laissé pour saisir fermement l'espérance proposée. Ces deux réalités, la promesse et le serment, constituent pour nous un puissant encouragement. C'était la réalité pour les chrétiens auxquels s'adressait l'auteur de la lettre aux Hébreux. C'est une réalité pour nous. Cette parole de Dieu, cette promesse de Dieu, ce serment que Dieu a fait à Abraham, nous apporte un puissant encouragement. Et le texte ajoute, le texte des Hébreux, c'est pour nous comme une ancre de l'âme, bien fermement fixée, qui pénètre au-delà du rideau dans lequel, là où est entré en précurseur, Jésus, devenu grand prêtre pour l'éternité, à la manière de Melchisédek. L'ancre de l'âme, la certitude ancrée sur les promesses de Dieu. Ta parole et tes promesses sont mon appui. L'ancre de l'âme, fermement fixée. Puisse le Seigneur nous donner d'expérimenter avec force cette réalité pour chacun de nous. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen.